RCF. Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur, quand c'était la guerre. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est à la rencontre d'une jeune fille qui vient d'avoir 16 ans que nous allons partir. Elle s'appelle Isaline Mercenier. Alors vous êtes en train de vous demander comment est-ce qu'elle a connu la guerre. Évidemment, c'est pas elle qui l'a connue, c'est son arrière-grand-mère. Et Isaline, du haut de ses 16 ans, ben, elle s'intéresse à la guerre. Je trouve que c'est aussi un beau message à faire passer. On a entendu parfois quelques personnes se dire « Oh, tout ça n'intéresse plus les jeunes ». Eh bien, si, il y a encore des jeunes que ça intéresse. Et Isaline, il y a 2-3 ans, elle avait eu l'occasion de réaliser un travail pour l'école où elle a interviewé son arrière-grand-mère sur la guerre, sur le fait qu'elle avait presque failli mourir pendant la guerre. Elle a été soignée pendant de très longues semaines à l'hôpital Saint-Jacques, près de l'église du même nom au centre-ville à Namur. Maintenant, malheureusement, son arrière-grand-mère n'est plus parmi nous, mais voilà, Isaline nous a contactés en disant qu'elle avait envie de transmettre le témoignage de son arrière-grand-mère. Donc c'est vraiment, je trouve, un beau message. On arrive à la fin de nos témoignages, donc c'est vraiment sympathique de parler aussi de la transmission, hein, du fait que voilà, il y a des jeunes, voire des très jeunes, qui ont envie de s'intéresser à ça et de le transmettre encore plus loin. Et ici, donc, on va écouter Isaline Mercenier nous parler donc de son arrière-grand-mère Ghislaine Dury. Et Isaline, elle est accompagnée de sa maman qui, évidemment, a un peu plus d'informations aussi, puisque malheureusement, quand Ghislaine Dury est décédée, Isaline n'avait que 14 ans. Donc, elle n'a pas pu accumuler toutes les informations que sa mère a pu accumuler. Juste un petit mot pour vous dire que ici, nous partons donc du côté de Suarlé. C'est là où habitait Madame Ghislaine Dury, qui, elle, était née en mai 1924. Allez, je vous laisse donc en compagnie d'Isaline.
Un jour, je pense que c'est sa maman qui s'est réveillée et elle a vu que le fort de Suarlé brûlait. Et donc, du coup, elle a réveillé tout le monde. Oui. Et c'est de là qu'ils sont partis aux Innes. Oui. Parce que il y avait les Allemands qui étaient là et les Allemands avaient brûlé le fort. Les Français étaient venus dans leur village pour leur dire qu'il allait avoir une grande bataille ici, que ça allait être le carnage, qu'il allait avoir plein de bâtiments détruits, beaucoup beaucoup de morts, des blessés, tout ça. Et donc du coup ils leur ont dit qu'ils devaient fuir le village. Et c'était début 1940. Et je me souviens, elle nous disait, on l'attend quoi, leur grande bataille, leur déconstruction, tout ça, leur carnage,
oui, ce qu'elle disait, c'était que les soldats français étaient fort agressifs.
Oui, plus que les Allemands qu'elle disait.
Oui, elle avait été vraiment très choquée par l'attitude des soldats français à ce moment-là. Qu'il leur avait dit de partir, vraiment, même l'oncle, il l'avait menacé, quoi.
Oui, c'est ça que...
Et donc ça, elle avait été fort traumatisée par, en tout cas par le souvenir qu'elle en avait. Elle se souvenait de ça et elle disait qu'ils étaient vraiment très très agressifs. Et ils étaient armés aussi, ils avaient débarqué dans les maisons. Oui, mais c'est vrai que l'histoire du fort, ça, oui... avait brûlé.
Et c'est ça qui a un peu démarré tout,
oui.
Quoi.
Et bon, je veux dire, quand on réfléchit, on se dit probablement qu'ils n'étaient pas très à l'aise non plus de savoir que les Allemands étaient à quelques centaines de mètres, quoi, finalement.
Et donc, elle a décidé, avec ses parents, de fuir à la ferme de ses grands-parents, aux Innes. Et de là,
le même jour, donc, ils se sont rejoints avec les grands-parents, enfin ses parents, ses grands-parents à elle, aux Innes, et pour partir ensemble, quoi.
Et ils sont partis en exode alors. Et donc, ils ont marché longtemps. Enfin, elle se souvient que c'était dur, il y avait plein de gens. Les gens étaient vraiment avec le strict minimum, mais il y avait quand même beaucoup, quoi. Il y avait des chariots, ils essayaient de dormir comme ils pouvaient, donc dans les chariots, dans des fermes et tout ça. Mais aussi, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle se souvient qu'il y avait beaucoup, beaucoup de cadavres par terre d'animaux. Et donc, beaucoup de comme ils essayaient de boire le plus. Enfin, ils essayaient de boire là où ils pouvaient. Il y avait de l'eau, l'eau était infectée, quoi. Elle était, donc il y avait des maladies dans l'eau, et c'est comme ça qu'elle a eu sa maladie qui est le typhus. Donc c'était, ils sont arrivés en France, et en France, ils leur ont dit de faire demi-tour. Et donc c'est parce que la guerre était finie, enfin c'était toujours en 1940.
Les Allemands étaient passés.
Oui, les Allemands étaient passés, c'était fini, quoi. Et donc du coup, ils ont fait demi-tour, et c'est sur la route pour rentrer en Belgique qu'elle a attrapé le typhus. Donc elle a commencé à avoir de la fièvre, à avoir de la diarrhée, tout ça. Et quand elle est rentrée chez elle, donc à Suarlé, déjà il n'y avait rien détruit. Enfin, les Français qui avaient dit qu'il y avait la guerre et tout ça, c'était pas du tout vrai. Les Allemands étaient juste passés, je pense.
Oui, enfin, ils étaient passés, ils s'étaient installés aussi.
Oui, oui. Et donc elle a commencé à être vraiment malade. Et donc ils ont appelé le médecin de village qui leur a dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et que donc ils devaient aller dans un hôpital. Mais les hôpitaux les plus proches, je sais qu'il y avait Saint-Camille et...
Donc oui, il y avait des hôpitaux de campagne qui avaient été mis en place. Donc,
Oui, parce que les hôpitaux avaient été réquisitionnés par les Allemands. Donc du coup, il y avait un hôpital de campagne, donc qui avait été installé dans une école primaire, et ils l'ont amené là. Et quelques jours plus tard, elle est tombée dans le coma pendant quelques jours, quelques semaines, je pense. Et ils lui ont même fait, comment ça s'appelle encore, le truc des malades pour la mort.
Ah oui, l'extrême onction.
L'extrême onction, donc ils pensaient qu'elle allait mourir, quoi. Et puis elle s'est réveillée quelques jours plus tard. Et elle m'avait dit, pendant 16 semaines, sa convalescence a duré 16 semaines. Donc pendant 16 semaines, elle était toute seule dans l'hôpital, dans une classe de primaire, qu'elle me disait qu'elle se souvenait, avec tous les dessins, avec tous
les enfants. Et donc c'était à Namur. À l'église Saint-Jacques. Là, il y avait un hôpital qui avait été installé pour tous les réfugiés ou les gens malades qui revenaient de l'exode, parce qu'il y avait eu beaucoup de personnes contaminées par le typhus.
Et donc sa tante.
Sa tante.
Mais sa tante qui est décédée, malheureusement, du typhus.
Elles étaient hospitalisées ensemble ? En même temps, non ?
Je pense pas, non.
Non, parce que elle était restée dans le village.
Hein, mais sa tante est décédée vite, qu'elle m'avait dit.
Elle est décédée, oui.
Enfin, elle est décédée avant que, ouais, que mémé tombe dans le coma, je crois même.
Oui, oui. Ouais.
Et donc après, elle est restée à Suarlé.
Elle est revenue à sa maison.
Et pendant tout le reste de la guerre, je crois qu'ils sont restés là.
À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. La 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 la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. La 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 la. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis un soldat. La 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 la. Je ne sens plus mes bras, tout tourne autour de moi. la la la. Mon Dieu, sors-moi de là. Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je ne suis qu'un soldat, la 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 la.
Aussi, elle avait un vieil oncle qui n'avait pas voulu partir.
À Shirley, donc elle avait un oncle, oui, qui ne voulait pas, donc il voulait pas partir.
Ils l'ont laissé. Finalement, il est resté tout seul. Ouais. Et donc, ils avaient peur en revenant de voir est-ce que l'oncle va toujours être là ou pas. Et il était toujours là, puisque il n'y avait pas eu de destruction des bâtiments.
Non, il n'y avait rien eu.
Mais lui ne voulait pas partir parce qu'il était trop vieux. Et probablement qu'il n'aurait pas survécu finalement au déplacement. Et alors eux, comme ses grands-parents à elle étaient fermiers, donc usines, eux ils sont partis avec les animaux et avec les charrettes. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient à pied et qui trimballaient toutes sortes de choses. Et donc eux, heureusement, leur chance c'était d'être recueillis dans les fermes. Comme ils étaient fermiers et qu'il fallait mettre les animaux, ils étaient recueillis dans les fermes et donc ils dormaient dans les fermes. Alors qu'il y a des gens qui, elle expliquait qu'il y a des gens qui dormaient
par terre,
dans les fossés, comme ça. Mais voilà, malgré tout, elle a été malade en buvant l'eau des puits qui était contaminée.
Affectée par du pipi des rats.
Et par les cadavres d'animaux, etc. Ouais. Elle expliquait. Elle disait que tout le village était parti. Tout le monde était parti.
Oui, parce qu'ils avaient peur avec la guerre d'avant qu'il y avait eu. La guerre en 14-18, ils avaient eu peur.
Ouais.
Donc tout le monde était parti.
Donc elle expliquait qu'ils avaient très peur parce qu'en 14, les Allemands avaient été fort violents.
Oui, et avec la ferme aussi.
Voilà, il y avait eu des atrocités dans la ferme de ses grands-parents.
Oui, il y avait eu... En fait, les Allemands avaient demandé, je crois qu'ils avaient demandé de réquisitionner la ferme.
Ils avaient brûlé la ferme.
Oui, mais je veux dire, genre au départ, ils avaient dit qu'ils avaient enterré quelqu'un de vivant.
Le grand-père de ma grand-mère, donc de Ghislaine, avait une ferme à Temploux à ce moment-là. Mais ça, c'est en 14, je sais pas. Et donc, quand les Allemands sont arrivés, ils ont brûlé la ferme. Et donc il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, qui n'ont pas su sauver. Et en plus, il y avait des ouvriers de la ferme qui étaient présents. Et les Allemands ont demandé au grand-père d'enterrer vivant un des ouvriers.
Et c'était une condition, genre...
Oui, c'était ça, où il tuait tout le monde.
Ouais.
Et donc ça, c'est un épisode qu'elle a beaucoup, beaucoup raconté, parce que c'était très, très traumatisant.
Ouais,
et donc...
C'est pour ça qu'ils sont partis, parce qu'ils ne voulaient pas revivre ça, même
voilà,
si...
Ouais.
Même si les Allemands sont passés, ils n'ont rien fait.
Et donc là, en 14, quand les Allemands sont partis, ils ont vite déterré pour essayer de sauver l'ouvrier, mais qui était mort, évidemment, étouffé et écrasé. Et donc c'est comme ça qu'après ils ont reconstruit, ils ont vécu dans une ferme usine puisque toute la ferme a été brûlée et donc à la fin de la guerre ils se sont installés usine. Et donc elle est née usine et quand ses parents, donc elle est née dans la ferme de ses grands-parents et après ils sont allés vivre à Suarlé dans les années, elle avait 5-6 ans quand était habité à Suarlay avec ce vieil oncle qui habitait à Suarlay.
Oui, parce qu'elle avait 16 ans au début de la guerre, non ?
Elle avait 16 ans au début de la guerre. Et donc, elle se souvenait très bien. Elle se souvient très, très bien. Elle se souvenait très bien de tous ces épisodes-là. Et puis, quand ils sont revenus aussi de l'Exode, donc ils sont allés jusque... à la frontière française, mais un petit peu au-delà. Et puis, ils ont fait demi-tour. Ils se sont même pas vraiment installés.
Oui, parce qu'on leur a dit de faire demi-tour direct.
Voilà, dès qu'ils sont arrivés, on leur a dit, vous pouvez rentrer, c'est fini. Les Allemands sont passés. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Rentrez chez vous. Donc, eux, ils sont rentrés. Et donc, quand ils sont revenus, ce qui l'avait fort surpris aussi, après qu'elle soit rentrée de l'hôpital et tout, c'est que il y avait... Donc, les Allemands s'étaient installés partout. Et qu'il y avait le drapeau nazi. Qui flottait sur les bâtiments officiels.
Ouais.
Et ça, ils avaient fort peur aussi. Donc, dans le village, il y avait aussi des Allemands, une commandanture dans le village aussi. Et...
Ouais.
Donc, voilà. Mais c'est vrai que cet épisode du typhus, et même quand elle est décédée... Elle a parlé aussi avec le curé qu'elle avait déjà eu l'extrême onction. Enfin, c'était un peu l'anecdote qu'elle avait survécu à une maladie fort grave.
Ah oui, elle me le racontait parce que c'était un peu genre ça.
Elle avait perdu tous ses cheveux.
Ouais.
Elle expliquait ça.
Ah oui, elle a perdu. Ouais. Ben, c'est à cause de ça.
Et ses sourcils aussi.
Et ses cils.
Ses cils, oui. Mais
sont revenus par la suite ou
Alors, non. Ses cheveux, si, elle avait les cheveux hyper solides, ça vraiment. Mais par contre, ses sourcils, elle les a jamais récupérés complètement et elle avait des cils très très fins. Et ouais, donc ça, elle a gardé ça. Mais sinon, elle est décédée à 96 ans. Donc, je veux dire, c'est aussi parce qu'elle était de bonne constitution, qu'elle était robuste, qu'elle a survécu à tout ça. Et bon, comme elle a toujours dit, elle n'a jamais eu faim vraiment pendant la guerre, puisque
ils
vivaient avec une ferme, donc et dans le village, il y avait la ferme, les fermes tournaient beaucoup pour nourrir les habitants. Ils donnaient du beurre, elle expliquait des œufs, du lait. Les gens venaient chercher beaucoup à la ferme de ses grands-parents aux Yves. elle s'est mariée pendant la guerre pour éviter à mon grand-père donc de devoir partir en Allemagne pour le travail.
Mais parce que normalement, elle devait se marier avec l'autre frère, non ?
Oui, oui. Donc normalement, elle était fiancée avec le frère de mon grand-père, mais qui a été tué à la guerre quand il a voulu partir rejoindre les Anglais. Donc il a été tué à Boulogne. Et elle expliquait tous des épisodes qu'il y avait beaucoup d'espions, des gens qui dénonçaient, où ils se méfiaient. On leur disait toujours qu'il fallait se méfier un peu de tous les gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup d'espions allemands qui parlaient français et qui venaient un peu s'infiltrer comme ça. Donc Georges, son fiancé, lui avait voulu partir en Angleterre, terminer ses études, il avait dû finalement faire le travail forcé, le travail obligatoire pour les jeunes gens belges, et il s'était échappé de ça parce qu'il ne voulait pas travailler pour les Allemands, mais il s'est quasi retrouvé à la rue. Elle dit un jour il est venu sonner chez eux, il avait plus de chaussures, il était vraiment dans un état terrible de détresse, de faim, de froid, etc. Et c'est le curé du village qui avait organisé un peu les départs de plusieurs jeunes pour l'Angleterre. Et ils n'ont jamais su vraiment le fin fond de l'histoire, mais à Boulogne, en tout cas, ils pensent qu'ils ont été dénoncés. Et il y a eu des rafles par là, donc ils ont été abattus par les Allemands, comme ça. Donc mon grand-père a dû aller reconnaître le corps à Boulogne, mais ils n'ont pas pu le rapatrier à ce moment-là, c'était pas possible. Et puis il y a eu un gros bombardement à Boulogne, donc les corps n'ont jamais été retrouvés. Et donc voilà, finalement c'est en 43, donc ça c'était en 40, hein, tout ça c'était en 40. Et en 43, elle s'est mariée donc avec mon grand-père, donc René, pour qu'il puisse échapper à la déportation en Allemagne. Et donc lui a fait son service militaire en Belgique, et il a fini par travailler donc au chemin de fer, et donc ici à René, où il y a eu beaucoup d'actes de résistance aussi pour essayer d'empêcher les Allemands de monopoliser le rail belge et l'acheminement des matériaux, etc. Mais donc, elle racontait volontiers des épisodes comme ça de la guerre, comme elle l'avait vécu. Mais mon grand-père, par contre, lui, pas du tout. Lui, il n'en parlait pas. C'était pas quelque chose qui racontait un petit peu son service militaire avec les Canadiens, des choses comme ça, avec qui il avait été en caserne donc, pendant la guerre. Mais ou bien c'est voilà les actions qui avaient été faites à René, mais très peu, très très peu, il racontait peu.
Après, moi, comme je l'ai pas connu, il aurait peut-être raconté maintenant.
Oui, peut-être. Mais bon, voilà, c'était quelque chose qui dit, on l'a vécu, il y a pas besoin de le revivre à chaque fois en le racontant. Et elle, par exemple, elle n'aimait pas regarder les films de guerre, etc. Parce que elle dit, on l'a vécu, on n'a pas besoin de le revoir. Il n'y avait pas ce... Mais elle racontait un peu la vie à ce moment-là.
Oui, parce qu'on lui demandait souvent de raconter quand même.
Oui. Et alors, elle a vécu aussi... Quand ils se sont mariés, ils sont allés vivre à Salzine. Et alors, ce qu'elle racontait aussi, c'était avec l'assassinat de François Bovès. Elle dit qu'on avait entendu les coups de feu, les sirènes, etc. Et ils ont appris que c'était François Bovès qui avait été assassiné chez lui. Parce qu'elle habitait donc à la place Wirtz. Et lui, François Bovès, c'était tout près du pont de la Libération. Quand ça a été plus violent, elle est revenue habiter
avec le bombardement à Namur.
Aux Innes. Et donc elle n'a pas vécu le bombardement à Namur. Et parce qu'elle avait, elle disait que quand on entendait les avions et tout ça, ça faisait quand même fort peur. Et donc elle est revenue vivre au village.
Elle y est restée toute sa vie. Mm-hmm.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
Bah, Je pense que les jeunes, on n'est pas assez informés par rapport à ça. C'était quand même un épisode tragique qui s'est passé dans notre histoire. Et vraiment, quand j'en parle jamais avec mes potes et tout ça, mais eux, ils connaissent rien du tout. Enfin, il y a même des gens qui ne savaient pas ce que c'était le débarquement, ils ne savaient pas. Et d'un côté, moi, parce que je suis un peu passionnée par ça, ça me choque. Mais après, je me dis, il y a des gens qui sont pas aussi intéressés et je trouve ça triste parce que quand les derniers témoins seront partis, seront décédés, ben, il n'y aura plus rien en fait. Il y aura leur témoignage et tout ça, mais je trouve qu'il faut en profiter et je trouve ça triste qu'on ne soit pas assez informé, qu'on n'en parle pas à l'école. Parce que par exemple, en cours d'histoire, je ne vois pas du tout ça. Enfin, je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas plus. On n'en parle jamais même.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Enfin, maintenant, on se plaint de petites choses, alors qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas à boire. Donc, vraiment se contenter de ce qu'on a et de se dire que ça peut être pire. Mais même dans les guerres qu'il y a maintenant. Enfin, je veux dire, la guerre, ça s'arrêtera jamais. Et la guerre, ça continuera toujours parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs et qu'on est tous différents. Donc, on a tous un point de vue différent. Donc ouais, il faut vivre avec tout le monde, il faut vivre avec la vie de tout le monde, parce que sinon ça crée des guerres. Et ben, c'est pas bien les guerres. Donc ouais.
On pourrait dire qu'elle, il faut toujours croire que ça va aller. Quoi.
Oui, elle avait beaucoup d'espoir.
Oui.
Elle s'est dit à un moment ça va se finir, genre limite elle se disait ben, demain ça sera fini.
Ça va aller, ça va aller.
Ben un jour, le lendemain ça s'est fini quoi. Ouais. Le jour de son anniversaire, puisqu'elle était née le 8 mai.
Ouais. Oui,
ça a toujours dit c'était le plus beau cadeau de ma vie.
Oui. Et aussi, elle n'a gardé aucune animosité par rapport aux Allemands.
Oui, non.
Après ça, parce que elle disait le malheur, il a été chez tout le monde. Et dans ça, mon grand-père disait aussi, c'est que en face d'eux, c'était des gens comme lui.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit. Genre, on nous a toujours dit, ben, les Allemands, c'est les méchants, et les Alliés, c'est les gentils. Mais on voit, enfin. C'est ce que je me suis toujours dit, les Allemands, il y en a quand même des gens, ils sont comme nous, quoi. Il y en a qui ont été complètement à fond derrière Hitler, mais il y en a qui étaient là pas par choix, qui étaient là par obligation. Et je suis sûre, enfin, ils tuaient des gens, enfin, je veux dire, tuer des gens, c'est quand même quelque chose de triste. Et même du côté allié, enfin, il y a eu beaucoup de souffrances des deux côtés, aussi du côté allemand, parce que, ouais, c'était des gens comme nous, quoi.
Et voilà donc pour le très sympathique témoignage d'Isaline Mercenier accompagnée de sa maman. Alors vous savez que en plus dans les témoignages on passe toujours des petites pauses musicales. Alors j'ai demandé à Isaline des chansons qui pourraient lui rappeler son arrière-grand-mère. Elle a choisi Le Soldat de Florent Pagny. Elle a aussi choisi Andalouse de Kenji parce qu'elle m'a dit que son arrière-grand-mère aimait bien écouter Maître Gims, elle aimait bien écouter Kenji. Donc c'est des chansons qu'elles aimaient bien écouter toutes les deux. Donc je trouve que c'est vraiment sympathique. On est en plein dans l'intergénérationnel. C'était vraiment un très chouette moment. La semaine prochaine, on se retrouve en compagnie de Jean Delahaut, que je vais interviewer ici durant cette semaine. Jean Delahaut, qui est donc le frère de la baronne Mariette Delahaut, que vous avez déjà pu entendre sur nos ondes, et qui nous fait un plaisir de témoigner pour nous. J'avais déjà eu la chance de le rencontrer il y a 7 ans pour parler du bombardement du 18 août 44, donc je suis vraiment content de le rencontrer à nouveau. Et si vous voulez retrouver tous les podcasts de Namur en guerre, vous pouvez aller sur le site www.namurenguerre.be. Et puisqu'on s'approche de la date du 18 août 1944, je vous indique que nous avons également un site qui s'appelle www.18août.be avec des témoignages, des photos et des documents d'archives sur le bombardement du 18 août 44. Je vous remercie pour votre fidélité. L'émission va bientôt toucher à sa fin. Hein. On est déjà au mois d'août, encore quelques semaines. Je suis heureux que ça se poursuive plus longtemps que prévu. Je vous dis donc déjà à la semaine prochaine et profitez de l'été malgré la météo.